Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Vanessa Drault. Si tu ne la connais pas, je vais te la présenter un peu. Vanessa vit en Suisse, elle est coach, praticienne en hypnose, technicienne PNL, podcasteuse et elle a écrit un livre, « La rencontre éveille les cadeaux insoupçonnés de la différence » qu'elle a coécrit avec Marilyn Cadou. Livre sur le handicap et la différence. C'est un dialogue optimiste entre deux femmes touchées chacune à leur manière par le handicap. Vanessa est atteinte d'une maladie génétique, la maladie des os de verre, et elle a décidé que cette maladie ne la définirait pas. Et c'est ce qu'elle transmet à travers son podcast intitulé « Plaisir et handicap », le podcast « Zéro tabou », dans lequel elle aborde des sujets sensibles de la société sans filtre et sans tabou, avec la belle énergie et le franc-parler qui la caractérise.
Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ?
Bonjour Vanessa.
Bonjour Amandine.
Comment vas-tu ?
Ça va super bien, je suis ravie d'être sur ton podcast, merci.
Eh bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter et à préciser par rapport à la présentation que j'ai faite de toi ?
Écoute, non, je crois que tu as dit vraiment l'essentiel, c'était parfait, merci.
Ok, merci à toi. Alors, avant de commencer, j'ai toujours une petite question spéciale pour commencer mes épisodes, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais quand même déjà pour commencer à parler d'amour, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter la première fois que tu es tombée amoureuse ?
Oh ! Ouh là là ! La première fois... ça va être difficile vraiment de déceler la première fois parce que... Quand j'étais adolescente, j'étais... En fait, dès qu'un garçon me portait de l'attention, j'en tombais amoureuse. Donc, ça va vraiment être compliqué, mais je dirais que... Ouais, voilà, les premières fois où j'ai eu ce sentiment de... Waouh, de « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un pour qui je suis importante » et que je sentais pour ma... comme un sentiment amoureux, c'était à cette période-là quand j'étais adolescente. Et sinon, je suis vraiment tombée amoureuse ces trois dernières années où j'ai rencontré mon compagnon avec qui je partage ma vie aujourd'hui.
Ok. Donc, j'allais dire comme ça, un petit peu en gag et en petit clin d'œil, y a-t-il en toi un petit côté cœur d'artichaut ?
Oui, probablement.
Ok, je te remercie de nous avoir partagé ça. Et puis, alors moi, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter sur mon podcast ? Parce que en t'écoutant, que ce soit à travers l'Académie du podcast dont on fait partie toutes les deux ou que ce soit dans ton podcast, je t'ai trouvée très inspirante dans ce que tu partages parce que je trouve que tu partages en fait des choses, des sujets qui sont finalement universels, même si donc ton podcast c'est plaisir et handicap, tu parles du handicap et des choses autour de ça, mais finalement quand je t'écoute, je me dis qu'en fait on peut tous être différent ou avoir une spécificité sur un point ou un autre ou se sentir différent. Et qu'on peut tous aussi, à un moment donné, avoir eu un rapport avec notre corps qui était un peu compliqué à un moment de notre vie et qui nous a fait nous demander si on serait aimé un jour ou si on pourrait plaire à quelqu'un ou s'épanouir sexuellement ou ce genre de choses. Quand je dis ça, je pense notamment, par exemple, moi, il y a toujours eu quelque chose par rapport au surpoids qui m'a questionnée. Et là-dedans, j'arrive à reconnaître des choses, même si on n'a pas la même expérience de vie, qui m'ont beaucoup marquée dans tout ce que tu transmets. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Finalement, qu'on a peut-être tous un peu le même besoin d'aimer et d'être aimé, et que ça peut venir nous toucher peut-être un peu de manière similaire, même avec des vécus différents.
Bah, oui, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est intéressant que tu me partages ça, parce que quand j'ai commencé le podcast... je m'intéressais vraiment à une femme qui a un handicap physique et qui est principalement en chaise roulante, du moins qui utilise une chaise roulante pour se déplacer. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce que je partageais, ça touchait vraiment un panel beaucoup plus large, dont des hommes, parce que là-bas, je m'adresse à des femmes, mais il y a des hommes qui m'ont fait des retours comme quoi ils se sentaient, ça leur parlait, et que même des fois, ils avaient un peu un sentiment de frustration parce que je ne parlais pas aux hommes, je m'adressais pas à eux directement. Et puis oui, je pense qu'au final, c'est vraiment un problème universel qui est de s'accepter comme on est pour pouvoir ensuite rayonner extérieurement et puis pouvoir vivre des relations, pas forcément une relation amoureuse, mais des relations saines avec les autres une fois qu'on a une relation saine vis-à-vis de soi. Et puis quand tu parles du surpoids par rapport à ton histoire à toi, puis la mienne qui est la différence physique au niveau de ma taille qui est réduite, et de mon squelette qui est un peu tordu par rapport à la maladie, je pense que peut-être ça a aussi résonné en toi. C'est tout ce modèle qui est présenté par la société, bien que je trouve que avec les années ça fait quelques années maintenant que c'est tout un peu en déconstruction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être, qui peut nous soulager et en tout cas comprendre que finalement, c'est tous des filtres qui ont été, construits par la société, apportés par la société de consommation, parce que il faut qu'on achète, certains types d'habits par rapport à la mode. Tu sais, je pense à la mode. Alors moi, c'est sûr qu'il y a des freins que je peux pas mettre parce que j'ai pas la bonne taille et parce que je suis trop petite, et puis du coup, c'est super frustrant, mais quand tu comprends, tu t'amuses, c'est pas forcément un moment d'amusement, mais de déconstruire tout ça, ouais. De voir qu'il y a des principes qui sont liés à ça, qui sont dans la consommation aussi, mais aussi au niveau culturel, il y a aussi tout un combat féministe aussi derrière tout ça, enfin... Quand tu comprends le fonctionnement, enfin, à quel point une société construite, elle est extrêmement complexe, et que c'est pas forcément toi, cette société, c'est pas toi, et que y a possibilité de trouver une place et que c'est possible pour tout le monde, c'est gentiment pour moi, ça rassure et puis ça fait du bien de savoir que oui, on peut être comme on est avec le physique qu'on est, et puis ça commence justement par un travail qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi.
Alors, ce que j'entends quand tu nous dis tout ça, c'est que t'as parlé finalement de mieux s'accepter soi aussi pour aller vers des relations plus saines, c'est juste. Ouais. J'imagine que ce chemin-là, ça, en tout cas, ça dépend certainement des gens, mais ça peut prendre parfois un certain temps. Tu serais d'accord de nous parler un peu du chemin que tu as fait, toi, par rapport à ça ?
Oui, bien sûr. Écoute, j'ai essayé d'aller voir les étapes principales. Alors, je dirais que j'ai eu beaucoup de souffrances ou de blessures ou de croyances, justement, qui m'ont été mises dans mon cerveau, dans mon mental, quand j'étais jeune fille et adolescente, par rapport... aux hommes de mon entourage, déjà, qui, du fait que j'étais différente, mettaient un peu de côté, puis c'était plus ma sœur qui était mise en valeur. Et encore, ça, c'est moi, c'est comment je l'ai perçu, comment je l'ai vécu. J'en ai discuté avec ma sœur, et elle n'a pas du tout eu conscience de ça. Et donc ça, c'est aussi intéressant de s'en rendre compte. Donc, j'ai eu vraiment de la peine à développer ma féminité, je dirais, quand je suis arrivée en période de l'adolescence, et j'ai mon corps, voilà, qui s'est transformé, qui est devenu adulte. Je me suis beaucoup sentie rejetée, mais ceci parce que je me suis renfermée sur moi-même. Et puis, en fait, les hommes, me dégoûtaient. Voilà, je les trouvais inintéressants parce qu'ils ne s'intéressaient pas à moi. Et puis, certainement aussi parce que moi-même, je ne me rendais pas intéressante, tu vois, parce que je n'avais pas vraiment envie qu'ils se rapprochent. C'était un peu un cercle vicieux. Et puis, même à un certain moment donné, dans mon adolescence, je me suis demandé si je n'étais pas peut-être homosexuelle, puis attirée par les femmes, parce qu'au final, je me disais, une femme, c'est plus doux. Les femmes sont douces, les femmes sont plus gentilles. Alors peut-être que. Et puis, au final, je suis jamais allée. J'ai jamais osé me diriger de ce côté-là de ma sexualité parce que je me disais, alors déjà, Vanessa, t'as un handicap, et si en plus t'es homosexuelle, mon Dieu, c'est double peine, quoi. Et donc, du coup, j'ai jamais osé explorer ce côté-là de ma sexualité. Et puis, de fil en aiguille, finalement, j'ai eu des flirts, et puis j'ai pu constater que oui, je pouvais plaire à des hommes, et puis je pouvais avoir des relations sexuelles avec. Et puis, je suis peut-être en train de me perdre dans mes explications parce que je voulais te dire quelque chose qui était important par rapport à ça. Ah oui, voilà, c'est une expérience, une leçon que j'ai apprise il y a quelques années qui est hyper importante et que je tiens vraiment à te partager, puis à partager aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, c'est que mais justement, quand tu es dans un travail de développement perso, tu vas voir, je sais pas, des kinés, tu vas travailler sur tes croyances, sur tes valeurs, etc. La chose qui revient souvent, comme on l'a dit au début, tu vois, c'est de s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite avoir des relations saines. Et puis, je m'étais dit, je sais pas, je vais genre être 29 ans. Je me disais, ok, bon, j'étais célibataire, puis je voulais vraiment me mettre en couple, en fait, pour faire comme mes copines, parce qu'elles étaient mariées, elles avaient des enfants. Je dis, ouais, maintenant, il va falloir que j'arrête de faire ma petite vie de célibataire, puis que je me mette, que je me pose vraiment avec quelqu'un. En fait, je me suis mise cette pression de me mettre avec quelqu'un en me disant, dans l'amour inconditionnel, donc sans condition, je vais aimer cet homme sans jugement, peu importe comment il sera. Je me suis mise en couple avec une personne et ça allait vraiment pas du tout. On a fait 2 ans. Et encore, ça n'allait pas dès le début. Et alors, c'était pas, voilà, je ne vais pas faire un diagnostic à la va-vite, mais il y avait peut-être des traits un peu de pervers narcissique, mais je l'ai senti directement, puis ça n'allait pas dès le départ, tu vois. Et la leçon, j'ai terminé avec ça, la leçon que j'ai eue de cette expérience-là, c'est que, oui, l'amour inconditionnel, c'est juste, mais ça commence par soi-même, en fait. Ça commence par soi-même, c'est-à-dire que va pas te mettre avec quelqu'un juste pour faire comme tout le monde, juste pour te rassurer par rapport au regard des autres. Mais commence déjà par te respecter et par trouver quelqu'un qui aura ce même respect pour toi, dans tes projets, dans tes ambitions. Enfin, en tout cas, là, c'est pour moi que je parle, mais vraiment de garder les standards élevés et de jamais se rabaisser pour être avec quelqu'un.
Ouais, c'est ça, parce que effectivement, comme tu étais partie dans cette expérience-là, t'as voulu offrir l'amour inconditionnel à l'autre, mais du coup, tu t'es oublié toi, t'as oublié de te respecter toi, si je comprends bien ce que tu nous dis entre les lignes. Et tu t'es abandonné toi, en fait, quelque part, est-ce qu'on pourrait dire ça?
Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand t'es dans la dynamique amoureuse, justement, t'es dans le truc et t'as pas assez de recul pour observer la situation.
Ouais. Ouais, ouais. Après, tu dis, je t'ai entendu dire, en fait, ça n'allait pas dès le début. Et c'est ça aussi dans les, comme tu dis, une fois qu'on est rentré dans la dynamique amoureuse, mais parfois au début, je sais pas exactement si c'est ce que tu as vécu ou pas, mais il y a des choses qu'on voit, mais qu'on essaye de mettre un peu sous le tapis. Qu'on n'a pas trop envie de voir. C'est ce qui fait qu'un jour, quand on se sépare de la personne, des fois, on se dit « Ouais, en fait, j'avais vu ça, en fait, dès le début.
» c'est ça, ouais.
Et, bon, du coup, tu nous as parlé de s'aimer soi-même pour aller vers des relations saines. Ce que j'entends aussi, mais aussi aussi dans ce que tu nous as partagé par rapport à ton cheminement tout à l'heure, je crois, C'est que finalement, c'est d'abord le regard qu'on porte sur nous qui nous permet d'aller vers un amour sincère ou vers une relation saine. Et est-ce que tu dirais que du coup, c'est essentiellement toi, pendant un certain temps, qui t'es privée d'aller vers ça ?
Peut-être. En fait, par rapport à la situation amoureuse dans laquelle je suis maintenant, je me rends compte que le couple que j'ai formé avec mon compagnon, c'est vraiment c'est un nid de sécurité, de confort, mais pas que, dans le sens que c'est un perpétuel travail d'équipe. Si je suis actuellement avec mon compagnon, c'est parce que mes erreurs du passé par rapport justement à cette expérience avec l'espèce de... C'est un peu un mot galvaudé maintenant, mais mon ex, quoi, m'a permis d'arriver là parce que j'ai compris que c'était important et que oui, alors c'est une forme de sincérité, mais la sincérité, justement, elle doit être... elle est aussi dans le couple, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me dérange chez mon compagnon, je vais d'abord aller voir si moi, de mon côté, je fais ce qu'il faut pour être agréable, pour que le confort soit dans notre nid, tu vois, dans notre maison, pour peut-être aller lui demander ou aller lui parler de quelque chose qui pourrait éventuellement me déranger. Mais ouais, c'est un travail rime souvent avec souffrance, mais c'est une construction.
Et est-ce qu'on pourrait dire aussi constante. Une attention, peut-être à soi en premier lieu, enfin revenir à soi d'abord, c'est ça que tu veux dire, oui. et puis et puis après considérer l'autre comme son équipier, oui, quoi, finalement.
Ouais, j'allais te dire, en fait, quand je cherchais justement à me mettre en couple, pour moi, c'est pas... je me suis jamais dit, je veux l'amour de ma vie, je veux le prince charmant. Je me suis toujours dit, moi, la personne avec qui je vais partager ma vie, ça sera mon compagnon, mon collaborateur. Tu vois, c'est une collaboration amoureuse que je veux.
Et tu t'es toujours dit ça? Ah non.
Non. Pas toujours. Non.
Ouais.
Non, plus je gagnais en maturité, plus ce discours justement s'aligner avec ça. Parce que justement, la vie n'est pas toute rose, en tout cas de mon côté. Et justement, je pense qu'on a besoin d'avoir une collaboration parfaite, un équilibre conscient pour pouvoir avancer à deux dans la vie. Et puis après, je pense que c'est pas non plus... comment dire, il y a aussi la forme, tu sais, la forme du couple. Pour moi, voilà, aussi une chose importante, je crois pas que j'ai partagé ça déjà, mais avec mon ex, du coup, ça allait pas parce qu'il était jaloux. Tu vois, quand j'avais des contacts avec d'autres hommes ou bien avec des collègues de travail, il était jaloux. Alors, c'était une jalousie déguisée, tu vois, c'était par des petites remarques ou des petites plaisanteries pas forcément drôles. Et puis là aussi, il y a quelque chose qui allait pas. Tu sais, je me disais, mais c'est pas... je me sentais emprisonnée, tu sais, je me sentais enfermée. Puis je me dis, mais moi, c'est pas ça que je veux à la longue. Je me voyais pas faire 10 ans enfermée dans cette relation. Et puis, j'ai appris aussi en allant me renseigner que finalement, il n'y avait pas que la monogamie qui existait, dans le sens que tu vis ta vie à deux jusqu'au bout. Il y a aussi des couples libres. Et puis du coup, ça m'a aussi donné... comment dire, ça m'a ouvert sur un champ de possibilités de construction d'un couple qui n'est pas forcément monogame et qui correspond plus aussi à mes valeurs, parce que j'ai une très grande soif de liberté et ce besoin justement de me sentir libre dans mon couple qui fait que le compagnon avec qui je suis aujourd'hui fait que je me sens super bien avec lui parce que je sais que je ne suis pas enfermée et puis que je vais,
être... du coup, ça me donne envie de te demander s'il y avait 3 ingrédients pour toi... de réussite d'un couple, de ton point de vue évidemment, ça serait quoi?
Trois ingrédients de réussite. Alors la première, mon Dieu, mais la première, c'est tellement important et j'y travaille constamment, c'est la communication. Vraiment la communication sincère, ouverte avec son partenaire. La deuxième, je dirais le deuxième ingrédient pour moi, comme tu l'as dit, la confiance. Finalement, la confiance, c'est important de faire confiance à l'autre. aussi. Et l'attention, les, tu sais, les petits cadeaux, ouais, les petits touches d'amour, quoi.
Ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais ça, ça me fait penser au langage de l'amour, tu sais.
Oui, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça.
Et
c'est
si
ça,
je reviens sur le... J'ai envie de dire aimer et être aimé dans sa spécificité, quelle que soit la spécificité qui y a derrière. Ma question, ça serait, est-ce que tu penses que notre spécificité ou nos spécificités peuvent être une force dans notre vie en général et en amour en particulier?
Oui, oui. Oui, je pense que c'est super important, en tout cas, d'en faire une force consciemment. Parce que si on parle du corps, peu importe la forme qu'il est, on n'en a qu'un seul et c'est celui qui va nous accompagner pour toute notre vie jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est hyper important, et ça, je l'ai compris, j'ai compris un peu plus tard, mais c'est d'en faire son allié, en fait. Même s'il a des difficultés, que ce soit la forme, mais aussi à l'intérieur, même ce qui compose tout notre corps, même nos organes, tu vois, d'être... Parce que c'est ce qui fait partie de notre être entièrement. Et oui, je pense qu'il faut apprendre à le chérir, à l'apprécier, à en prendre soin du mieux qu'on peut, voilà, du mieux qu'on peut, parce que c'est avec le dictat en plus. Des fois, du dev perso, voilà, avoir une bonne alimentation, de faire du sport tous les jours, bah, des fois, c'est pas possible. Il faut aussi pouvoir l'accepter.
Ouais, tu parles d'en faire son allié. On est encore sur une sorte d'équipe, là. On parlait d'équipe dans le couple tout à l'heure, mais on peut faire équipe aussi avec notre corps, quelque part.
C'est vrai.
Et
c'est vrai, ouais.
Et donc, en faire une force pour toi de... Alors là, on parle de spécificité physique, du coup, comme tu dis. En faire une force, du coup, ça serait dans ce cas-là prendre soin de son corps, dans une certaine mesure, mais ça pourrait être... Enfin, il y a d'autres choses, toi, qui t'ont permis d'en faire une force ?
Moi, c'est de l'accepter et de le remercier. Dans des rituels que je faisais, par exemple, quand j'étais dans la salle de bain, de simplement vraiment... observer mes jambes, parce que j'ai eu pendant des années, j'ai rejeté un peu mes jambes, parce que dans ma pathologie, c'est mes os qui se cassaient le plus, mes fémurs, mes tibias, péronés. J'ai eu beaucoup de fractures à ce niveau-là. Puis de prendre un moment, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est super puissant. C'est vraiment de prendre le temps de conscientiser mes jambes, ma jambe droite, ma jambe gauche, pour tout ce qu'elles m'apportent, parce que quand bien même elles sont fragiles, elles me sont quand même utiles, je peux marcher, tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là, et de les remercier, et de les masser, de passer de la crème et tout, puis vraiment avoir ce contact avec son corps. Et puis, tu sais, en plus, c'est arrivé il y a pas longtemps, on était avec mon compagnon, je peux regarder la télé, et puis il massait la jambe, puis d'un coup, je me suis dit, mais tu te rends compte que... Enfin, je pense, je sais même pas s'il faisait attention, tu vois, il massait le mollet, et puis je me suis dit, mais il y a des années en arrière, quand j'étais adolescente, pour moi, c'était hors de question qu'on me touche,
ouais, parce que c'est, pas, moi, c'est marrant ce que tu dis, parce que, alors moi, j'avais, pour le coup, j'avais ce truc-là avec mon ventre, quoi. Quand j'étais plus jeune, ça m'insupportait absolument qu'on vienne toucher mon ventre, en fait. Et j'ai eu aussi un moment comme ça il y a quelques temps où je me suis rendu compte qu'en fait, alors non seulement ça ne me dérangeait plus, mais en plus je pouvais même trouver ça agréable en fait, en vrai. Et je trouve que le... ouais, alors tu parles d'acceptation, je parle d'accueil aussi souvent, accueillir ce qui est là en fait, puis comme tu dis aussi voir les bonnes choses en fait que ça nous apporte. Et j'ai envie de dire, si tu me permets d'élargir un peu, je ne sais pas ce que tu auras envie de me dire par rapport à ça, mais pour moi, c'est vrai quand on parle du corps, mais c'est vrai, par exemple, quand on parle, je ne sais pas, de nos blessures intérieures. Par exemple, enfin moi, j'ai une blessure d'abandon qui s'est beaucoup apaisée maintenant, mais qui reste un truc là, que j'ai tellement voulu rejeter, j'ai lutté contre pendant très longtemps. Et puis, Et puis, bah, évidemment, ça marche pas, en fait, d'essayer de jeter des trucs à l'extérieur de nous. Et puis, à partir du moment où on m'a dit, bah, essaye d'accueillir ce truc-là qui est à l'intérieur de toi, bah, ça a pris encore du temps parce que je voyais pas comment j'allais accueillir ce truc-là. Et en fait, finalement, c'est dans l'accueil et dans l'acceptation et aussi dans qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, parce que ça fait aussi des belles choses sur nous, que ça a commencé à s'apaiser. Et du coup, en t'écoutant parler du corps, je me dis que, en fait, c'est quelle que soit la différence, spécificité, blessure, enfin, on peut prendre par plein d'endroits différents. Finalement, c'est à tous les endroits, l'accueil et l'acceptation, c'est un truc qui est, je pense, assez important.
Oui, et puis je pense que c'est aussi l'approche qu'on... Je pense que l'approche peut être différente aussi pour chaque problématique, tu vois, parce que on peut parfois entendre un discours généralisé, notamment sur les réseaux sociaux, tu sais, avec ces belles phrases toutes construites, mais c'est peut-être pas en fait ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a besoin d'entendre, ou ce qu'on a comme ça qu'on a besoin d'entrer dans la résolution, ou en tout cas dans l'apaisement de ce qu'on peut considérer comme un problème, tu vois. Et puis ça aussi, c'est ça le truc, c'est que, j'en reviens encore sur le développement personnel, mais tu sais, c'est vraiment comme, idéalement, il faudrait résoudre justement tout ce qu'on pourrait penser comme des problèmes, et puis dès que, bah, justement, qu'on a des blessures, il faut les guérir, mais juste les regarder, et puis les accueillir, comme tu l'as dit, c'est super important, et de savoir que, tu sais, c'est comme justement quand, toi aussi qui es praticienne en hypnose, quand tu vas voir un docteur, ou un spécialiste, peut-être que finalement, c'est peut-être pas celui qu'il te faut là. Puis il y a des gens, des fois, ils peuvent faire des années pour traiter une problématique. Et puis c'est juste en changeant de spécialiste que finalement, c'est la relation avec le spécialiste qui a tout changé parce que c'était une dynamique qui n'allait pas. Quand la relation elle est apaisée, tu peux entrer cette fois dans la situation, voir un angle différent.
Ouais. Puis se connaître mieux aussi, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, je crois aussi qu'on avance. Parfois, les choses, elles changent au bout d'un certain temps et ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé pendant tout le temps d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il y a un moment donné où, comme tu dis, il y a la bonne personne en face, où il y a le bon déclic qui fait que tout le travail qui a été fait avant, il va aussi... tout va concorder à créer le changement à ce moment-là, en fait. J'aime bien cette phrase, je sais plus qui, plus qui dit ça, mais que le changement, ça se passe toujours en une seconde. Mais des fois, il y a la préparation au changement qui prend du temps.
Oui, c'est vrai.
Et si on revient sur l'amour, à ton avis, qu'est-ce que les gens ne réalisent pas forcément à propos de l'amour? Alors, je dis l'amour, mais tu peux me répondre aussi par rapport au couple, ce qui te parle le plus, peut-être.
Je pense peut-être que les gens ne réalisent pas forcément que la personne avec qui on est, elle a un important effet miroir.
Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par effet miroir?
Alors justement, c'est par rapport à un problème que j'ai depuis, depuis l'adolescence, ça a commencé depuis l'adolescence, c'est un problème d'addiction. D'addiction au téléphone, au smartphone. Où j'ai justement essayé de régler ce problème parce que je me rendais bien compte, tu vois, à chaque fois j'étais déconnectée, j'écoutais plus les gens et puis j'étais sur mon téléphone, que ça soit en classe, que ce soit en formation, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, en famille, vraiment, j'étais vraiment coupée des autres. Et puis je suis allée voir un psychiatre qui m'a dit que non, c'était pas une addiction. Parce que il était spécialiste des addictions dans la consommation de stupéfiants, mais que ça ne correspondait pas à l'addiction. J'étais là, bon, ok, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit t'inquiète pas, tu lâcheras ton téléphone une fois que tu auras trouvé ta mission de vie. J'étais là, ouais, je me sentais pas écoutée. Et puis j'en ai parlé à une troisième personne en fait qui a eu les mots mais tellement juste. Elle m'a dit mais en fait. Alors déjà, l'utilisation du smartphone, ça peut être comparé à justement de la consommation de drogue parce qu'ils ont fait des tests comme quoi, en fait, tu avais les mêmes déclencheurs chimiques qui se passaient dans le cerveau. En fait, elle m'a dit, l'utilisation du téléphone, c'est tellement accepté sociétalement, c'est comme si tout le monde prenait des rails de coke et que c'était accepté. Puis là, mais tu sais, cette phrase, je dis, mais c'est ça en fait. On est tous des drogués. Et on ne s'en rend même pas compte. Et justement, c'est là, justement, ça rejoint ce que je disais avant, c'est elle qui a eu vraiment les bons mots et je la remercie encore. Et puis, par rapport à ce problème maintenant que j'ai conscientisé d'utilisation un peu abusée de mon téléphone, je travaille. Et là, je vais amener mon conjoint dans l'histoire où, si je peux constater qu'il a des problèmes d'addiction, pardon, ça peut être n'importe quoi, mais je vais d'abord aller voir moi. Est-ce que j'ai travaillé par rapport à ça? Est-ce que j'ai fait un effort? Est-ce que je suis conscient de ça? Ou bien est-ce que je me suis laissé aller puis j'ai passé 3 heures à scroller? Est-ce que je peux me permettre de lui faire une remarque? Peut-être pas, tu vois.
Donc c'est, j'allais dire faire le ménage devant sa porte avant. Et effectivement que
Un
l'autre
peu
est
ça, oui.
inconsciemment hein, nous montre des choses sur nous. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ou peut-être c'est ce que tu fais des fois dans tes accompagnements, je ne sais pas si tu donnes des conseils, mais dans l'idée, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aurait l'impression qu'il ne pourrait jamais être aimé ou s'épanouir en amour?
Simplement de déjà de je sais pas, je dirais de savoir qu'on est tous le fruit
Ouais.
d'un élan d'amour déjà, et qu'il a été créé dans cet élan-là. Et puis après, je sais pas, peut-être que ouais, je lui dirais de s'intéresser un peu à ce qui se passe peut-être dans d'autres cultures aussi. Parce que ici, chez nous, en Occident, c'est un peu, je trouve que notre rapport aussi un peu spirituel, il est aussi un peu biaisé, il est un peu coupé. Donc, je sais pas, j'irais peut-être aller s'intéresser déjà à ce qui se passe en dehors et peut-être pas aussi se focaliser là-dessus, tu vois. Parce que souvent, quand on est focalisé sur un problème, on va voir que ça, puis il va s'agrandir, mais simplement de déplacer peut-être son regard ailleurs et de voir les choses sous un angle différent.
Ce qui permet quoi, à ton avis? Quand on défocalise, ça permet quoi?
Ça permet justement de voir de nouvelles choses, de voir des de voir ce qu'on pensait être un problème, être peut-être la solution, inversement.
Ce qu'on pensait être un problème peut être la solution. Alors ça, c'est marrant parce qu'effectivement, Enfin, je pense que c'est des choses que tu amènes aussi dans tes accompagnements. En hypnose, c'est un peu ce qu'on fait, je crois, des fois. Montrer que les problèmes peuvent être les solutions. Et inversement, montrer que les solutions sont inefficaces. Et, Ok, je te remercie pour ce conseil. avant qu'on arrive tranquillement à la fin de l'épisode, je vais te poser une question personnelle. Qu'est-ce que tu te souhaites en amour, en plaisir et en épanouissement pour les prochains temps.
Alors, ce que je me souhaite en plaisir, en amour, en épanouissement, je me souhaite de me réaliser pleinement dans mes objectifs personnels et professionnels pour inspirer le reste du monde, enfin, du reste du monde. Pour que les gens, justement, soient inspirés par le fait de voir quelqu'un qui a réussi, qui a osé, et puis peut-être se donner le courage de se lancer à son tour, tu vois, c'est dans un effet un peu boule de neige positive.
Tu sais, moi je crois qu'il faut rêver grand, hein. Inspirer le monde, c'est plutôt une.
Ah oui. Ah, c'est sûr. Ah, mais c'est évident. Moi, je suis une grande ambitieuse. Moi. C'est ça.
Et en même temps, c'est ça qui nous
C'est
pousse.
le moteur. Oui.
Ok, alors merci Vanessa. Est-ce que tu peux nous partager un peu, est-ce que professionnellement, tu as des choses à nous partager sur ton actualité, tes projets?
Alors, je suis en train de terminer la construction de mon site internet. J'espère qu'il sera en ligne pour 2024. Et puis, là-dessus, justement, j'annoncerai comment dire, les nouveautés et les possibilités justement de travailler avec moi. Et puis, voilà.
Ok. Et puis, bah, encore une fois, je te dis un grand merci pour ce moment partagé ensemble.
Merci à toi, merci de l'invitation.
Avec plaisir, à très bientôt.
À bientôt,
Bye
ciao.
bye.
Bye.
J'espère que cet épisode avec Vanessa t'aura inspiré. Je ne te cache pas que, pour ma part, c'est le cas. À la fois à titre personnel et aussi à titre professionnel, parce que c'est vrai que dans mes accompagnements, il y a une partie qui est très importante pour moi, d'accompagner les gens sur la connaissance de soi, l'acceptation de soi et faire une force de nos spécificités et de notre unicité. Je te remercie pour ton écoute, parce que si le podcast existe et si il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Je t'invite, si cet épisode t'a touché, à venir m'en parler en privé sur Instagram, ou si tu as envie, à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi gratuit de 20 à 30 minutes pour parler de ta situation amoureuse. Je te dis à très vite. Bye bye.